Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle édition des grands entretiens de Storia Voce. Au XIXe siècle, Joseph de Maistre, qui aimait la France, écrivait sur nous les mots suivants. Le caractère français n'est pas susceptible d'une marche uniforme et continue. Cette obstination imperturbable avec laquelle l'anglais ou l'allemand marchent à leur but sans tomber ni se détourner n'est pas à l'usage des Français. Chez eux, c'est-à-dire chez nous, Français, l'abattement succède à l'enthousiasme et les bévues aux grands coups politiques. Le vaisseau de l'État ne vogue pas sur une mer tranquille, il est tantôt au nu et tantôt dans l'abîme. De là, ses hauts et ses bas, ces alternatives de gloire et d'humiliation si communes dans l'histoire de France. De Maistre aurait pu ajouter à ces mots l'idée que, parce que nous aimons vivre sur une mer agitée, il nous est nécessaire parfois d'avoir recours à ces personnages qui, dans notre histoire, sont des sauveurs. Ces héros qui, pendant des décennies, peuplaient les pages de nos manuels scolaires et que l'on est bien en peine de retrouver aujourd'hui. De Vercingétorix à Jeanne d'Arc, de Du Guesclin à François Ier, mais surtout Louis XIV, qui, avec Napoléon et le général de Gaulle, semblent tous les dominer. Pourquoi cela? Sinon parce que notre pays n'est ni plus ni moins, avec l'Angleterre, qu'un état-nation depuis bien longtemps, et que ces trois hommes, en leur temps, surent incarner à la fois l'un et l'autre, l'état et la nation. Storia Voce vous propose de partir à la découverte de deux d'entre eux, Napoléon et le général de Gaulle, et à travers eux, de mieux comprendre ce concept si français du sauveur. Patrice Guenifet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de vous recevoir à ce micro parce que, en fait, nous nous connaissions depuis longtemps, mais nous ne nous étions jamais rencontrés.
Voilà, exactement.
Le hasard, l'histoire, bref, tout cela a fait que nous nous étions jamais rencontrés. Vous avez travaillé sur des sujets qui m'intéressent et réciproquement. Et à travers ce livre, je suis donc très heureux de pouvoir faire cette émission puisque vous venez de publier Napoléon et De Gaulle, deux héros français, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alors, Patrice Guenifet, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, pardon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages et vous êtes d'abord et avant tout un spécialiste de la Révolution et de l'Empire. Ma première question, Patrice Guenifet, elle est en filigrane de mon introduction. Je parlais de Louis XIV, je parlais de Bonaparte, je parlais de Gaulle. On aurait pu s'attendre à un triptyque. Pourquoi vous avez préféré cette dualité Napoléon et De Gaulle plutôt qu'à ce triptyque Louis XIV, Napoléon et De Gaulle ?
Non, vous avez raison. La première raison, c'est que si j'avais inclus Louis XIV dans l'étude, il m'aurait fallu 200 pages de plus, ce qui n'aurait pas été raisonnable. Bon, plus sérieusement, c'est que tout de même, 1789 est une coupure dans l'histoire de France et que le monarque, même si Louis XIV, on peut dire, a joué un rôle semblable, c'est-à-dire à la fois il tire la France, le royaume, d'une situation très difficile, qui est celle héritée de la Fronde, même s'il, du point de vue de la grandeur nationale et de son rayonnement, du rayonnement du pays, il joue un rôle semblable à celui que Napoléon d'abord, De Gaulle ensuite ont joué plus tard. Néanmoins, c'est un autre monde, l'Ancien Régime, et ça nécessite une étude à soi seul. C'est-à-dire, il est très difficile, la comparaison déjà n'est pas facile entre ces deux héros que j'ai retenus, qui sont très différents par l'époque, par le tempérament, par l'itinéraire. Donc en y ajoutant un personnage de l'Ancien Régime appartenant à un monde là tout à fait différent, ça aurait rendu la comparaison encore plus artificielle. Parce que, bien sûr, le parallèle ne va pas de soi.
Alors, en fait, dès les premières pages, vous Vous prenez les trois principaux héros nationaux, malgré tout. Hein, vous parlez de Louis XIV et vous montrez ce qu'ils représentaient à l'intérieur et à l'extérieur. Et en lisant ces lignes, je pensais à la définition de la paix de Saint-Augustin. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Et peut-être que cet ordre, parce que ce sont avant tout des hommes aussi de guerre, tant Louis XIV que Napoléon, que De Gaulle, même si nous allons le voir, les conditions et les contextes sont absolument différents. Mais des hommes d'ordre à l'intérieur.
Oui, parce que après tout, leur œuvre intérieure a consisté à rétablir un ordre conforme à l'esprit et aux valeurs de leur temps, dans chaque cas, à la suite de grands désordres. Même si tous les trois ont pour assurer à la fois la sécurité et la puissance française, étaient des hommes de guerre, alors plus ou moins volontairement. De Gaulle a été précipité dans la guerre, il n'est en rien responsable des événements, mais il a été précipité dans la guerre. Bien, il se trouve de toute façon que ce genre de personnages acquièrent leur stature dans des conjonctures tragiques. La tragédie fait partie de leur histoire, parce que les époques paisibles n'ont besoin ni de Louis XIV, ni de Napoléon, ni de Gaulle, ou en tout cas ne les souhaitent pas et ne les accueillent pas volontiers.
Est-ce que cela veut dire que, mais là c'est une réflexion beaucoup plus générale sur l'histoire de France, que c'est là où se situe le statut du sauveur dans l'état de crise, et pourtant il y a eu des périodes de longue crise dans l'histoire de France, mais que ces périodes de crise ont toujours bénéficié du statut de sauveur, c'est ce qui caractérise l'histoire de France.
Oui, je ne sais pas si j'emploierais le terme de sauveur. C'est un terme que j'aime pas beaucoup, parce que le terme de sauveur est connoté négativement. Parce qu'après tout, l'histoire pullule de sauveurs qui ont été avant tout des grands fossoyeurs de leur pays, du siècle, de la civilisation. On peut penser à Hitler, on peut penser à d'autres qui eux aussi ont été à leur façon des sauveurs, mais pour le pire. Or, je pense que ce qui domine dans l'histoire de France sont moins des sauveurs aventuriers que des grands hommes, c'est-à-dire des figures à qui il a été donné à un moment donné d'incarner une collectivité et d'incarner son esprit, ses valeurs. Et c'est ça qui est spécifique dans l'histoire de France et dont les autres peuples ont eu moins besoin. Et je cite Paul Valéry qui disait « L'histoire de la France est un répertoire incroyable d'énergumènes, de phénomènes, de grands hommes, c'est-à-dire de personnages singuliers qui individualisent cette histoire ». C'est-à-dire qu'ils ont eu le pouvoir de l'incarner. Et je crois que ce qui distingue la France, c'est précisément cette fonction d'incarnation de son histoire. L'histoire de France est une histoire à la première personne. Voilà.
Alors précisément, c'est très important, et je ne m'attendais pas à voir cela en ouvrant votre ouvrage, c'est que vous réhabilitez aussi complètement l'histoire politique dans le sens noble du terme. L'histoire est faite par des hommes,
oui.
Et les études historiographiques, on le sait, ont été dominées pendant des décennies par l'école des annales, qui posait le collectif avant l'individu. Et cette école des annales, elle en est revenue.
Il y a eu l'influence d'abord des grands systèmes déterministes, le marxisme d'un côté, la psychanalyse de l'autre, donc qui ont imposé cette idée qui a dominé le XXe siècle, que l'histoire n'était pas faite par des individus, ou que si elle était faite par ces individus, ceux-là ne savaient pas l'histoire qu'ils faisaient. Ils étaient agis en quelque sorte soit par les intérêts fondamentaux, l'économie, soit par l'inconscient, la culture. Et donc il y avait cette idée que les hommes n'étaient pas maîtres de leur destin. Et moi je suis attaché à la formule de Tocqueville, qui est qu'il faut bien admettre des limites à l'action, à la liberté humaine et au pouvoir d'action des hommes, mais comme disait Tocqueville, dans ces vastes limites, l'homme est libre et responsable. Et donc que l'action individuelle possède une efficacité au moins relative. Et du reste, le XXe siècle, pour le pire et pour le meilleur, a prouvé qu'une action individuelle pouvait infléchir le cours de l'histoire. Après tout, le fascisme n'est pas une expression des intérêts capitalistes. Le fascisme est sorti de la cervelle de Mussolini, puis de celle de Hitler. Staline joue un rôle qui n'est nulle part annoncé dans le Capital de Marx. Donc là aussi, un individu est intervenu. et pour le meilleur. On a vu plus tard Valéza, en Afrique du Sud Mandela, Margaret Thatcher, infléchir l'histoire de leur pays, voire plus largement. Valéza, sans Valéza, est-ce que le communisme s'effondre aussi vite ? Et de cette manière, ce n'est pas sûr. Ou Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Voilà,
ouais.
Jean-Paul II. Donc, l'histoire apporte continuellement la preuve que l'efficacité de l'action humaine compte, existe. Et donc que la qualité des hommes qui font l'histoire, leur grandeur éventuellement, sont des paramètres à prendre en compte et très importants pour comprendre le changement historique.
Alors le paradoxe, et là on en vient à un des grands aspects de votre ouvrage, c'est que la Révolution française coupe la tête à son roi. Hein. C'est Renan qui disait, en coupant la tête à son roi, la France est suicidée. Et... Donc elle tient à substituer à l'homme dont on parlait des symboles, et finalement elle se retrouve avec Napoléon.
Oui, parce que le grand rêve, qui n'est pas un rêve médiocre d'ailleurs, son rêve c'est que le peuple souverain fait l'histoire, et que les individus ne sont au mieux que des représentants du peuple, des organes qui donnent une voix au peuple, mais qui par eux-mêmes n'ajoutent rien à la volonté du peuple. Donc, le geste symbolique de couper la tête du roi, c'est au fond d'installer le peuple collectivement sur le trône. Alors, c'est la grande utopie de la Révolution, mais en même temps, la Révolution n'en finit pas d'incarner son combat, soit dans la figure de ses ennemis, mais aussi dans la figure de ses défenseurs, de ses héros. Et c'est là aussi une pépinière de héros incroyable, à l'encontre du message de la Révolution. Qui voulait, le message résumé par Michelet, France guérit des individus. C'est-à-dire qu'un monde libre et responsable et adulte serait un monde où aucune figure individuelle n'émergerait. Voilà. Où le peuple, collectivement, anonymement, ferait son histoire et bâtirait son destin. Or, ça ne marche pas. Et la Révolution, à partir de Mirabeau, Marat, Danton, Robespierre, Barras, n'arrête pas de faire surgir des individus qui incarne la collectivité et dont l'action détermine des infléchissements dans l'histoire de la Révolution jusqu'à Bonaparte. Et c'était la grande énigme pour les républicains du 19e. C'est-à-dire comment cette révolution faite par le peuple, au nom du peuple, pour le peuple, aboutit à s'incarner, à se confondre dans la personne de Bonaparte qui restitue la figure royale. Et pour eux, c'était une maladie française. Et après, quand ils ont vu Napoléon III arriver, ben alors bien sûr, là, ils se sont dit, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'histoire française. Et tout le libéralisme français partage ce jugement. C'est-à-dire que la France sera un pays, au fond, immature, car incapable de se passer d'un individu et toujours en quête de l'homme providentiel qui lui donnera un visage.
Alors... Je le dis tout de suite aussi à nos auditeurs, c'est que votre approche aurait pu être chronologique, mais cela n'aurait eu aucun intérêt. Vous avez vraiment une approche thématique, et vous comparez le retour, parce qu'il s'agit de retour, tant pour Bonaparte que pour De Gaulle. Et je vous cite, Bonaparte a l'air d'un amateur comparé à De Gaulle, et vous citez Jean Lacouture, qui intitule le chapitre consacré à la crise de mai 58. L'appelle le 17 Brumaire, si De Gaulle n'avait pas eu besoin d'un 18 Brumaire.
Moi, alors, j'ai pas cette interprétation, parce que je pense que De Gaulle a fait un 18 Brumaire, mais qu'il a pas eu besoin d'un 19 Brumaire. Alors, parce qu'il faut rappeler pour les auditeurs que le coup d'État de Bonaparte se déroule en deux jours. Le premier jour se passe très bien, le deuxième se passe mal. Par la faute d'ailleurs de Bonaparte, pour des raisons qu'il n'est pas très utile d'expliciter ici. Mais le deuxième jour se passe mal et Bonaparte est obligé de recourir à la force pour finir son coup d'État et assurer le changement de régime. De Gaulle n'a pas eu besoin. De Gaulle a fait un 18 Brumaire, il a quand même eu besoin d'un coup d'État. Le 13 mai est un coup d'État. Alors, savamment orchestré, si savamment orchestré, que le recours à la force est resté à l'état de menace. Ce qu'on appelle l'opération résurrection, c'est-à-dire la menace d'une intervention militaire en métropole pour hâter le dénouement de la crise. Et il est sûr que De Gaulle a laissé faire, a laissé se développer cette opération, mais n'a jamais donné le feu vert. Et il n'a pas eu besoin de le faire, car le régime a capitulé avant. Bah, c'est en ce sens-là que Bonaparte a failli compromettre toute l'opération par sa précipitation et son manque de sang-froid le 19 Brumaire. Oui.
Le tempo historique n'est pas le même entre la Révolution et la fin de la 4ème République.
Non, vous entendez quoi par tempo?
Bah, le tempo historique, c'est-à-dire oui. qu'il y a enfin, la Révolution française est toujours en mouvement, oui. alors que la 4ème République, il y a un régime qui est en place et qui meurt peu à peu de ses propres.
On peut dire la même chose du Directoire. Oui. La fin de la 4ème République ressemble beaucoup à l'agonie du Directoire. Le Directoire bute sur un. Les deux régimes, d'ailleurs, ont un bilan positif. Après tout, la plupart des réformes que Bonaparte va faire ont été conçues pendant le Directoire. De Gaulle va appliquer beaucoup de réformes conçues sous la 4ème République. Mais les deux régimes ont été marqués par l'incapacité de faire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient conçu. Et tous les deux ont buté sur une crise qu'ils n'ont pas su résoudre. Alors, le Directoire est incapable de faire barrage au retour de une restauration monarchique. C'est-à-dire que si Bonaparte n'arrive pas, le roi revient. Le Directoire va s'écrouler de lui-même comme la 4ème. Et la 4ème était incapable de trouver une solution à la crise algérienne. Donc dans les deux cas, il a fallu une intervention extérieure pour dénouer la situation. Donc ça se ressemble beaucoup les deux situations, hein. La fin du Directoire, les années 98-99, c'est où le régime est obligé de faire un coup d'État contre son Parlement, qui est de plus en plus à droite chaque année, ressemble beaucoup à l'impuissance et la paralysie de la 4ème République, qui fait comprendre dans les semaines qui précèdent le 13 mai que, voilà, il va falloir une issue, et que cette issue, très probablement, ne viendra pas de l'intérieur.
Alors, il y a des pages très, j'allais dire, poignantes, que vous écrivez sur la question algérienne, parce que c'est un peu ça, quand j'ai lu ces pages, ça m'a fait penser à ce que disait Bluche de Louis XIV, le soleil a ses taches. Et là, l'Algérie, la question algérienne fait partie de ces taches du gaullisme. On n'a pas de réponse, on ne peut pas avoir de... Finalement, je ne vais pas dire qu'on ne peut qu'accepter, mais c'est un fait historique et y a comme un fossé entre la grandeur de l'homme et ce qui se passe en Algérie.
Oui et non, parce que De Gaulle, je pense, avait une appréciation précoce et ferme sur la situation algérienne et sur la solution qui, très vite à ses yeux, est devenue l'indépendance, la séparation entre l'Algérie et la France. Alors, ce qui donne la dureté à l'issue de cette affaire, c'est au fond d'abord une raideur de caractère qu'on ne retrouve pas chez Napoléon, qui était un homme beaucoup plus coulant et rond et qui avait une facilité à la négociation et au pardon que n'a pas De Gaulle. De Gaulle n'a aucune sympathie pour les pieds noirs et encore moins pour les harkis qui, à ses yeux, ne sont pas français. Et il n'oublie pas que Alger l'a très mal accueilli en 43, que Alger lui préférait Giraud. Et De Gaulle est un homme qui n'oublie pas les offenses et qui ne les pardonne pas. Dans ce sens, ce ressentiment.
Oui. Alors que c'est le plus chrétien par rapport à Napoléon.
Vous savez bien que les chrétiens ne pratiquent pas toujours les vertus chrétiennes. Alors, dans ce sens, il a fait preuve d'une dureté où on retrouve l'expression de ce ressentiment. Mais en même temps, pour lui, le problème n'est pas l'Algérie française. Le problème, c'est de restaurer l'État. Et après tout, il se sert de l'affaire algérienne pour arriver au pouvoir et restaurer l'État et de garantir la grandeur française. À partir du moment où il a la garantie qu'il va pouvoir continuer les essais nucléaires dans le Sahara et qu'il va pouvoir continuer à exploiter le pétrole du Sahara, eh bien, à ses yeux, la grandeur française, sa souveraineté, son indépendance sont garanties. Le reste ne compte pas. L'histoire coloniale est un chapitre passé de l'histoire de la France. Et en plus, il vient d'une famille de la droite qui n'a absolument aucune sympathie pour les colonies. Vous savez, il y a toute une partie de la droite qui a toujours pensé que les colonies, c'était une dépense inutile, que c'était une aventure de gauche, et que l'argent dépensé dans les aventures coloniales aurait été mieux employé en France, à assurer l'indépendance et la puissance française.
L'Algérie de Napoléon, c'est le duc d'Enghien ?
Oui, on peut le dire. Là aussi, il y a un acte très dur, cruel même, perpétré de sang-froid dans un but politique. Oui, parce que c'est le duc d'Enghien qui lui permet de monter la dernière marche qui le sépare du trône. Oui.
Donc on peut faire ces parallèles.
Oui, il n'y a pas de grand homme sans une certaine part de démesure et de dureté.
Mmh. Oui. En fait, on a une vision de l'histoire. On pourrait avoir une vision de l'histoire d'homme saint, mais ce n'est jamais le cas parce que il n'y a eu que Saint-Louis et Saint-Louis, si on le jugeait à travers nos propres conceptions, d'abord on ferait un anachronisme et deuxièmement on ne comprendrait absolument pas le personnage tel qu'il était. Mais vous montrez bien à travers votre livre que ces hommes, ces héros, ces hommes providentiels, je reprends l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure parce que vous préférez celle-ci à celle de sauveur, sont des hommes qui ne sont pas tout blancs.
Non, mais parce que c'est impossible. Je veux dire, j'aime beaucoup la phrase. J'ai aucune sympathie pour Saint-Just, mais néanmoins j'aime bien sa phrase. On ne gouverne pas innocemment. Et je crois que c'est très vrai. Et c'est un des traits d'aujourd'hui de notre époque que de croire à l'innocence et à la transparence du pouvoir. C'est-à-dire de croire qu'on peut gouverner innocemment, qu'on peut gouverner en bon père de famille. Ce n'est pas vrai, parce que le pouvoir a des exigences qui vont très souvent contre la morale commune. D'ailleurs, si vous prenez ces deux hommes, Bonaparte et De Gaulle, vous pouvez en vain leur chercher des amis, vous ne les trouverez pas. Ils n'en ont pas, ils n'en ont jamais eu. Voilà. Ce sont des hommes seuls qui accomplissent ce qu'ils pensent être leur mission. Et qui ont, au figuré en tout cas, laissé beaucoup de cadavres sur les côtés. C'est-à-dire, toute leur vie, après tout, la politique, ça consiste aussi, pas seulement à conquérir des soutiens, ça consiste aussi à se séparer de beaucoup de gens qui vous ont servi. Et ils l'ont fait sans état d'âme.
Alors, justement, je voudrais revenir quand même sur cette idée de grands hommes. Dans mon introduction, je parlais de la France et de l'Angleterre. C'est encore une fois une spécificité française. Ces gens, ces hommes, pourquoi on a l'impression que l'histoire la plus récente nous apparaît comme la plus importante? Par exemple, un Philippe le Bel, ou bien même un Saint-Louis, dont a parlé merveilleusement Le Goff, l'historien Le Goff, on semble plus attaché à un homme comme De Gaulle. Vous parlez d'ailleurs des sondages où De Gaulle apparaît comme cette figure sacrée, sorte de personnage intouchable en dépit de ses erreurs, parce qu'on entend de manière tout aussi régulière la question des harkis, la question des rapatriés, etc.
Mais je crois que en même temps, ces héros qui sont les plus admirés aujourd'hui, les plus estimés de l'histoire française, ont été aussi les plus controversés. Et tous les deux ont suscité des passions définitives et inextinguibles. Ça a été le cas de Napoléon pendant très longtemps, ça l'est encore. Il paraît régulièrement des livres qui le comparent à Hitler ou qui dénoncent le rétablissement de l'esclavage, etc., etc. Donc il a suscité des passions. De Gaulle a été haï plus qu'aucun autre. Voilà. Mais il y a quand même ce sentiment que sous leur gouvernement, sous leur autorité, la France a été plus grande, en dépit des zones d'ombre. Et ça recouvre tout. C'est ce qui fait aussi le prestige de Louis XIV. Louis XIV, il y a la persécution des jansénistes, il y a les guerres de la fin du règne, mais néanmoins, Louis XIV, c'est Versailles. De Gaulle, c'est la grandeur de la France. Celui qui a sauvé la France en 1940 de la honte de la défaite, qui lui a permis de rejoindre le camp des vainqueurs en 44-45. Donc ça compte. Et Napoléon, c'est pareil. Napoléon, c'est Austerlitz. Quel que soit par ailleurs ce qu'on peut leur reprocher. Et les haines féroces qu'ils ont pu susciter.
Alors justement, oui. Parce que vous parlez un moment de Pompidou, et contrairement, nous avons fait une émission avec Philippe Reynaud, et nous avons parlé de l'après de Gaulle, Pompidou, le temps de Pompidou, le temps de Giscard, qui semblait, j'allais dire, se démarquer avec le passé gaulliste. Georges Pompidou, c'est très net dans votre ouvrage, vous le dites très bien. En évoquant après la figure de Pompidou, vous citez Bernanos en disant que Pompidou avait une vision de l'histoire qui était la suivante. Bernanos disait de l'histoire, c'est un énorme magasin de rancune. C'est un terme extrêmement fort. Est-ce que, je vais me permettre de faire l'avocat du diable, est-ce que, au fond, ce n'est pas justement cette faire référence à ces gens dans l'histoire, à ces hommes, c'est pas cultiver des rancunes éternelles.
Non, je crois pas. C'est que tout simplement l'histoire est très présente en France, quoi qu'on en dise, et malgré les désirs de certains qui voudraient bien qu'on l'efface et qu'on n'en parle plus, elle est très présente et c'est une histoire très conflictuelle. Les Français, c'est un peuple qui, d'une part, ne s'aime pas. C'est-à-dire, la détestation de soi est un grand sport national qui n'est pas d'aujourd'hui. Elle existait déjà au 19e, elle existait au 20e, dans les années 30. Les Français ne s'aiment pas. Ils ont toujours tendance à se déconsidérer. Et en plus, ils ne s'aiment pas les uns les autres. D'où ce magasin de rancune. C'est-à-dire, effectivement, notre histoire est ponctuée d'épisodes qu'on ressort, la Saint-Barthélemy, la guerre des Camisards. On pourrait remonter plus loin dans le temps et descendre plus proche de nous.
Cette volonté de repentance systématique.
Oui, pas seulement. Mais... C'est-à-dire que c'est un peu... l'histoire de la France est un peu une guerre civile larvée, la plupart du temps, mais quand même une guerre civile franco-française. C'est-à-dire, les Français ne sont pas un peuple qui a forgé un consensus sur son histoire et sur ce qu'il est. Alors ça fait le côté passionnant de ce pays, ça en fait un pays qui est moins ennuyeux que beaucoup d'autres, mais en même temps ça fait que l'histoire a été un champ d'affrontement permanent. Entre historiens, entre écoles, l'histoire est très liée à la politique, donc elle fait partie du débat politique. Jusqu'à aujourd'hui.
Le roman national n'est possible qu'à travers ces grands hommes ?
En France, oui. Parce que je pense que la particularité de la France, c'est que l'État y est plus fort que la société, donc la politique que les mœurs. C'est le contraire de l'Angleterre. L'Angleterre a une société cohésive, très inégalitaire, mais en même temps qui possède une cohésion très forte, qui lui a permis très tôt de limiter le pouvoir royal. Et la France n'a dû sa cohésion qu'au développement du pouvoir royal, au détriment des libertés locales.
Donc de l'État.
En faveur de l'État. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis que l'État est en crise, c'est-à-dire depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, eh bien, la société française se délite parce qu'elle ne tient dans sa cohésion que par l'État. C'est notre spécificité. On n'a pas de classe dirigeante. Ça n'existe pas en France. On a une classe administrative, des serviteurs de l'État, que les rois, d'ailleurs, prenaient très souvent dans le tiers-État, dans le clergé, un peu partout, mais on n'a rien qui ressemble à la gentry anglaise qui a contrôlé le pouvoir pendant des siècles et encore jusqu'à une période récente. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que le pouvoir de l'aristocratie anglaise décline. Donc on n'a rien de ça. Les Anglais ont une société plus forte que leur État. Et ça explique leur cohésion, notamment dans les périodes difficiles. Pendant la guerre, ils n'ont quasiment rien qui ressemble à notre collaboration. Les Français, dans l'épreuve, se déchirent. D'où aussi le besoin d'une figure qui les réconcilie malgré eux et qui donne une image positive de leur unité inexistante.
Alors, justement, nous sommes à quelques semaines des élections présidentielles. Hein, nous enregistrons cette émission une trentaine de jours avant les élections présidentielles. La France a besoin d'un homme qui incarne. On parle beaucoup du mythe du sauveur en disant précisément que c'est un mythe. Alors que, à vous écouter et à vous lire, il est nécessaire d'avoir un homme qui incarne.
Il était nécessaire. On peut dire que le personnage de l'homme providentiel s'est éteint en 1965 quand De Gaulle s'est retrouvé en ballotage contre Mitterrand et a accepté ce ballotage.
C'est ce que disait Philippe Reynaud.
Voilà. Du coup, il est descendu de son piédestal et il est rentré dans la vie politique. Ce qui d'ailleurs a permis au régime de s'institutionnaliser et de connaître cette longévité rare dans l'histoire française. Bon, maintenant, je pense que ce genre de personnages dont je parle appartiennent au passé. Nous sommes dans un monde tout à fait différent. Eux vivaient, jusqu'à De Gaulle, dans une société verticale où l'autorité était respectée en tant que telle. Donc, où la supériorité était reconnue et respectée en tant que telle. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés horizontales, parfaitement démocratiques, où toute supériorité est a priori suspecte et dénoncée. Et on peut penser qu'un homme qui s'élèverait au-dessus du peuple pour figurer son unité serait destitué très rapidement, symboliquement au moins. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus la supériorité parce qu'on y voit une forme d'inégalité inacceptable. D'autre part, ces acteurs étaient en possession des moyens. Alors si le grand homme, c'est celui qui sait le mieux, qui peut le mieux et qui veut le mieux, c'est la définition de Carlyle, eh bien on peut dire qu'aujourd'hui c'est impossible. Bien sûr, on pouvait avoir quelqu'un qui sait le mieux, c'est-à-dire qui sait juger la situation, ce qu'il faut faire et la limite à ne pas dépasser. Ce même personnage pourrait être celui qui veut le mieux, c'est-à-dire qui est doté par tempérament d'une volonté extraordinaire qui lui permettrait de surmonter les obstacles, de renverser les barrières. Mais il ne sera jamais celui qui peut le mieux, c'est-à-dire qui aurait les moyens de l'action. Parce que depuis l'époque de De Gaulle, eh bien, sont intervenues des évolutions qui ont complètement transformé le monde qui a été le leur de l'État souverain. Il y a eu d'abord la décentralisation administrative qui a diminué l'influence de l'État, ses pouvoirs. Il y a eu ensuite la construction européenne qui a retiré une grande partie des moyens souverains d'action. Et enfin, la mondialisation économique qui a diminué le statut et l'influence du politique. Donc dans cette mesure, nous sommes dans un monde tout à fait différent. Et puis nous sommes, je l'ai dit, des sociétés démocratiques, obsédées par la transparence, entrées dans l'âge de l'inquisition et de la surveillance permanente. C'est-à-dire au fond, nous sommes dans le monde décrit par Hegel, dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, quand il disait « il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre ». Ce qui d'ailleurs ne prouve pas que le grand homme n'est pas un grand homme, mais qui prouve que le valet n'est qu'un valet. Et je pense que dans les sociétés démocratiques, eh bien, nous sommes tous un peu des valets de chambre, et rien de plus.
Pourtant, votre livre montre bien qu'il y a, et le roman national que vous défendez, montre bien qu'il y a des permanences dans l'histoire.
Il y a des restes. Non, il y a eu des permanences dans l'histoire, mais c'est une histoire qui est globalement derrière nous. Alors, il y a des restes qui sont liés en particulier à la constitution de la Ve République, qui installe le président dans la position formelle du sauveur. Ce qui fait que toute élection présidentielle est un peu fondée sur la quête du sauveur. Et on le voit d'ailleurs encore cette fois-ci, malgré la médiocrité absolue et générale des candidats en lice, on voit que tous sont un peu dans ce personnage de celui qui va détenir la clé des problèmes et qui va tout régler d'un coup de baguette magique. Donc il reste en quelque sorte une culture, une aspiration vague, mais on ne voit plus rien de tout ça se traduire. Et la tendance, d'ailleurs, depuis Giscard au moins, c'est à la banalisation de la fonction par différents moyens. Giscard allait prendre le café avec les éboueurs, Sarkozy parlait comme on parle dans la rue, et Hollande a accepté de dialoguer avec Leonarda. Voilà, donc la fonction, de fait, elle est morte.
Et désacralisée.
Désacralisée. La constitution de la Ve, en plus avec le quinquennat, a globalement cessé d'exister. Mais néanmoins, il reste dans la tête des gens cette aspiration, peut-être parce qu'il reste ce sentiment que, au fond, la France est un pays qui ne tient que par la politique et par l'autorité de l'État. Alors l'État est en crise, mais reste cette idée que, ce qui explique d'ailleurs l'ampleur de la crise dans laquelle nous sommes.
Alors, en vous écoutant, je pense quand même à une autre société démocratique. Alors, on peut ne pas être d'accord avec son programme, avec son bilan, etc. Mais Obama dans un certain registre, représentait une forme d'héroïde, d'homme au-dessus des autres, qui a été exemple de toute affaire, quelle qu'elle soit, contrairement à Bill Clinton, qui incarnait quelque chose, même si, d'ailleurs, le voulait-il lui-même ? On ne sait pas, mais il y avait une sorte d'aspect sacré dans son pouvoir.
Oui, mais qui est le caractère sacré de sa fonction ? Parce que la différence entre l'Amérique et nous, c'est que les Américains ont l'arche sacrée de la Constitution. Ils n'en ont eu qu'une depuis 1787, une seule Constitution. Nous, nous en avons eu plus d'une dizaine. Donc c'est une grande différence. C'est-à-dire que en France, les institutions ne comptent pas, sont pas très importantes. D'ailleurs, le respect du droit n'est pas une religion française. On voit bien que le droit est bafoué en permanence. C'est-à-dire l'idée même d'une norme juridique et du respect de ces normes n'existe pas. Les juges transmettent les affaires aux journalistes, chose qui n'arriverait jamais aux États-Unis. Les Américains ont la religion du droit et de la Constitution. C'est ça qui les réunit et qui permet à un peuple si hétérogène, si divers, de vivre ensemble. C'est leur religion du droit. Nous ne l'avons pas.
Nous avons une loi non écrite, en quelque sorte, du pouvoir.
C'est le pouvoir qui fait tenir la société, mais le pouvoir, c'est pas le droit. Le pouvoir, c'est l'autorité.
Tout à fait.
Et on voit que nos dirigeants s'exemptent facilement des règles du droit, beaucoup plus qu'ailleurs. Parce qu'on n'a pas de consensus sur les institutions. Alors la cinquième a existé un certain temps, probablement c'est la fin, mais il n'y a jamais eu rien de semblable à la Constitution américaine. Et donc le président aux États-Unis est sacralisé. Alors avec des crises lorsqu'il déroge au devoir de sa fonction, ça a été le cas pour Clinton, ça sera peut-être le cas pour Trump. Parce que les tweets vont finir par avoir quand même des conséquences.
Alors, c'est très intéressant que vous parliez de ça, parce qu'il y a tout un chapitre de votre livre qui est extrêmement intéressant, qui s'intitule « La plume et l'épée », et qui montre combien il y a toujours une intelligence du pouvoir, mais ces hommes de pouvoir sont aussi quasiment des hommes de lettres, c'est-à-dire des gens qui savent, je ne sais plus qui disait qu'avant de bien penser, il fallait savoir bien écrire et le sens des mots, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui connaissent le sens des mots et qui ne sont pas sous une dictature de l'émotion, qui sont, encore une fois, des hommes de lettres.
Oui. Et je pense qu'ils avaient tous les deux, mais ils sont écrivains un peu par goût et par instinct. D'abord, tous les deux, Napoléon et De Gaulle, ont voulu être écrivains. Napoléon a commencé par écrire, et puis un beau jour, il a renoncé, comme il disait, à la petite ambition d'auteur, d'être auteur. Et il s'est mis à dicter. Et c'est en dictant qu'il est devenu vraiment écrivain, parce que c'était sa nature. Sa nature, c'est l'action. Et là, il trouve son style, le style oratoire, le style bref, le style de l'action. De Gaulle a voulu être écrivain depuis sa plus tendre enfance et n'a jamais renoncé à cette ambition qu'il a fini par assouvir dans l'écriture de ses mémoires après d'autres livres. Et je pense que en France, l'écriture et le pouvoir sont étroitement liés depuis longtemps. Ça remonte à Louis XIV. Louis XIV, Richelieu même avant, Mazarin moins, mais Richelieu a donné ce modèle de l'homme d'État écrivain, puis Louis XIV. Et donc nos grands hommes politiques écrivent, et c'est devenu presque une tradition. Jaurès a écrit, Clémenceau a écrit, voilà, Mitterrand a écrit, tout le monde a écrit, De Gaulle aussi. Et parce que je crois que, ce qui n'est pas le cas ailleurs, prenez les mémoires de Churchill, c'est un montage. Churchill n'a pas vraiment écrit ses mémoires. Et d'ailleurs, Churchill ne veut pas donner un livre qui serait une sorte d'introspection. Churchill veut simplement laisser un témoignage sur ce qu'il a fait pendant la guerre. De Gaulle, non. De Gaulle revisite son histoire, il la transfigure par le style, par la littérature. Napoléon transfigurera son histoire par ses demi-dictées que sera le mémorial de Sainte-Hélène. Donc c'est tout à fait autre chose, c'est un autre rapport à l'écriture et qui, me semble-t-il, témoigne du lien très étroit qui lie l'écriture à l'identité française. la littérature. Parce qu'après tout, la France, c'est une langue, bien sûr, mais c'est aussi une littérature. Et c'est ce qui compose son identité le plus fortement.
Patrice Guenivet, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Il y a votre dernier chapitre est consacré évidemment aux fins, ce que vous appelez le cimetière à la mort, le cimetière des héros. Est-ce que on peut comparer Sainte-Hélène avec cette image de De Gaulle on pense aussi à la phrase de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage qui hante toutes les personnes d'un certain âge. Est-ce qu'on peut comparer ces deux, les deux sorts, l'un et l'autre, au fond, ont été rejetés, alors peut-être plus l'un que l'autre, dans des conditions autres.
Les deux. C'est-à-dire que, bon, Napoléon, le cas est un peu différent. Il est rejeté en 1814 réellement. Lorsqu'il part pour l'île d'Elbe, en 1815, il est vaincu. Mais il n'est pas regretté à ce moment-là. Il le sera plus tard, mais sur le moment, il n'est pas regretté. Donc, il va connaître l'exil. De Gaulle a connu ce qui ressemble à une sorte de demi-exil après 1965. C'est quand même une fin de mandat difficile. Les épreuves de 68. Et en 1969, c'est lui-même qui se condamne à l'exil intérieur. En quittant le pouvoir après la défaite au référendum de 69. Mais on peut dire que cette période, bref, dans le cas de Gaulle, d'exil intérieur avec l'image de la promenade sur la lande irlandaise, puis l'enfermement à Colombey et Napoléon à Sainte-Hélène, c'est le moment de la transfiguration. Et c'est pourquoi aussi ils occupent cette place particulière dans notre histoire. Il y a, dans le cas de Louis XIV, l'agonie terrible, la phrase qu'on lui prête, l'État ne meurt jamais, et dans le cas de nos deux héros, là, il y a cette période de l'exil qui transfigure leur histoire et qui les fait entrer déjà de leur vivant dans la légende. Et vous savez, pour un grand destin, ça peut pas finir bien. Et Napoléon, je vous raconterai une anecdote pour terminer, Napoléon reçoit un jour son poète qu'il aimait bien, Arnaud, Antoine Vincent Arnaud, qui vient lui soumettre sa nouvelle pièce. C'est à l'époque de la campagne d'Italie. Bonaparte lit cette pièce et dit « oui, c'est pas mal, je vais y réfléchir ». Là-dessus, il part en Égypte, il revient un an plus tard. Et quand il revoit Arnaud, il lui dit « ah, au fait, j'ai réfléchi à votre pièce ». Qu'il avait lu plus d'un an avant. Il lui dit, mais c'est pas possible, c'est une tragédie. Et votre pièce finit bien. Il faut forcément que les choses finissent mal, parce qu'il n'y a que lorsque ça finit mal qu'il y a de la grandeur. Et je pense que c'est un peu un résumé de ce qui va leur arriver à tous les deux. C'est-à-dire que la pièce ne peut pas bien finir. Il faut que l'épopée soit couronnée par l'ingratitude et par l'exil. Et d'une certaine façon, par l'échec.
Et pourtant, vous dites dans votre ouvrage que De Gaulle, c'est la fin d'un monde. Staline est mort en 53. Churchill n'est plus. Roosevelt n'est plus non plus depuis longtemps. C'est la fin d'un monde. Alors qu'avec Napoléon, on associe davantage Napoléon au futur 19e siècle.
Oui, c'est vrai. L'un commence un monde. Il inaugure le 19e siècle où son nom va régner, en quelque sorte, sur les esprits, sur les imaginations, et De Gaulle finit un monde. Mais ça, c'est indépendant, ou plutôt c'est un problème différent de celui de leur échec à tous deux personnel. Après tout, Napoléon a perdu l'Empire. Il a perdu l'Empire, il a perdu son trône. De Gaulle a fondé un régime, mais son histoire s'achève dans l'amertume du référendum perdu, et dans le ressentiment face à ceux qu'il perçoit comme des traîtres. Comme des gens qui l'ont abandonné. Et sa haine tenace contre Pompidou à la fin, qui n'est pas l'épisode non plus le plus glorieux de son histoire, en témoigne. Donc ils ont tous les deux ce sentiment de l'échec et de l'ingratitude, même si tous les deux ont réussi différemment. Après tout, Napoléon a laissé un héritage civil très important, code civil, des institutions, des tribunaux, etc. De Gaulle a laissé une constitution politique. Mais tous les deux ont eu en même temps le sentiment d'avoir échoué, bien sûr, personnellement.
Eh bien, merci beaucoup,
merci à
Patrice,
vous
d'être venu au micro de Storia Voce. Donc, votre livre « Napoléon et De Gaulle, deux héros français », un ouvrage paru aux éditions Perrin. Alors, je vous ai envoyé préalablement à cette émission un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Clio, qui était un questionnaire que je posais à la fin des émissions quand je travaillais à Canal Academy, et je l'ai repris pour vous parce que votre œuvre pour moi est importante. Quel est, Patrice Guenifet, votre livre d'histoire de jeunesse?
Bah, écoutez, vous allez être déçu parce que c'est un livre tout à fait anecdotique. C'est sans doute le premier que j'ai lu dans le genre historique. C'était un livre d'un acteur oublié aujourd'hui qui s'appelait Noël Noël, et le livre s'appelait La Sentinelle endormie. Et c'était précisément l'histoire d'un complot chouan qui ratait contre Napoléon. Alors c'était un roman historique, mais c'est probablement c'est un livre qui m'a fasciné. Et étant enfant, je l'ai relu plusieurs fois. Et je pense que c'est peut-être de là que m'est venu le goût pour l'histoire, et notamment pour la petite histoire que j'aime beaucoup.
Alors, quel est le fait historique de votre jeunesse ayant participé à l'élaboration de votre personnalité?
C'est un événement que je n'ai pas connu, qui est la Seconde Guerre mondiale, parce que mes grands-parents et mes parents en parlaient beaucoup. Et c'était au fond... je suis né au milieu des années 50, hein, donc c'était un événement encore très présent, non seulement par les conversations familiales, mais aussi par le cinéma, Le jour le plus long, Paris brûle-t-il, La grande évasion, qui ont été les films de mon enfance.
Sur votre table de chevet, quel est le livre que vous lisez
en ce moment? L'histoire de Rome de Mary Bird. Excellente histoire de Rome, parue tout récemment.
Oui, SPQR.
Voilà, SPQR. Ouais.
Dont Julien de Rubempré, notre chroniqueur, a parlé. Votre héros dans l'histoire antique?
Octave, devenu Auguste, qui pour moi est le grand homme. Voilà mon goût pour l'État.
Voilà. Athènes ou Rome?
Rome, bien sûr, absolument.
Quel parti prenez-vous, celui d'Antigone ou bien de Créon?
De Créon, parce qu'il assume ses devoirs, aussi déplaisants soient-ils.
Alors, en dehors de l'Europe occidentale, quelle est la civilisation ou le pays dans lequel ou lesquels vous auriez aimé vivre?
Aucun. Je suis vraiment européen, donc j'aurais très bien pu vivre en Espagne, en Angleterre, mais ailleurs qu'en Europe, c'est impossible. J'ai beaucoup voyagé et je n'ai jamais trouvé un pays où j'aurais envie de rester.
Vous montez dans une machine à remonter le temps, à quelle époque vous transporteriez pour y faire quoi?
Alors le 19e siècle absolument, qui est le siècle que j'aime, et bien sûr pour écrire.
Alors il y a une question que je voulais vous poser pendant l'émission, que je ne vous ai pas posée, mais qui est liée à celle que je vais vous poser maintenant. Quel fut notre meilleur ennemi? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes notre meilleur ennemi?
Si, c'est nous-mêmes. Notre meilleur ennemi extérieur a été bien sûr l'Angleterre, avant l'Allemagne, mais notre meilleur ennemi, c'est nous.
Ouais. Votre meilleur roman historique, pardon?
Guerre et paix de Tolstoï.
Le plus beau film
catégorie.
Le plus beau film historique ou en lien avec l'histoire que vous recommanderiez?
Les Enfants du Paradis.
Le monument de Paris que vous portez dans votre cœur?
C'est pas un monument, c'est la Seine. Bon, qui les résume tous, mais qui est une merveille. Après tout, il n'y a pas de plus belle vue que Paris depuis un pont.
Trois mots pour définir la France?
Alors, je dirais les terroirs, parce que la France, pour moi, avant tout, c'est une géographie, c'est des paysages. Donc, le mot de terroir. Je dirais aussi le mot de civilisation. La France, avant d'être une société, un État, ce sont des mœurs. Une conception de la politesse, de la civilité, qui sont spécifiques des rapports entre les hommes et les femmes, qui sont tout à fait particuliers à notre pays. Donc civilisation. Et le troisième, la liberté, parce que je pense que la liberté existait bien avant 1789 et qu'elle est le fil conducteur de l'histoire française depuis le plus haut Moyen-Âge.
Maurras parlait des libertés. Vous exiler, quels sont les trois livres que vous prenez avec vous?
Alors ça, c'est très compliqué. J'emmène bien sûr d'abord Guerre et paix, que j'ai lu et relu, mais que je relirai encore. J'emmène, je vais tricher un peu, j'emmène tout Zola, parce que pour moi, c'est un romancier fabuleux et c'est un monde. Il a inventé un monde, Zola. Et j'emmènerai un livre peu connu, mais qui pour moi est c'est le charme de l'enfance, de le charme probablement de l'Ancien Régime, c'est l'histoire de ma vie d'Alfieri, qui est un livre charmant à lire, que les éditions Champs Libres avaient réédité il y a assez longtemps. Donc voilà les trois que j'emmène.
Alors, dernière...
Mais ça serait pas assez.
Dernière question, vous arrivez dans l'au-delà, quel personnage de l'histoire iriez-vous voir immédiatement et alors, que lui demanderiez-vous?
Aucune hésitation, je vais voir Joseph de Maistre, et pour pouvoir dire du mal du monde dans lequel nous vivons et dont il avait fait le procès avant même qu'il n'existe.
Eh bien, merci beaucoup Patrice Guenifet. Donc je rappelle... les références de votre ouvrage Napoléon et De Gaulle, deux héros français, un ouvrage magistral que je conseille à nos auditeurs, une vraie réflexion sur l'histoire et sur le rôle des hommes dans l'histoire politique et surtout dans l'histoire politique de la France, aux éditions Perrin. Je remercie Amandine qui a rendu possible cette émission et toujours notre fidèle Georges à la technique. Merci.
Merci à vous,
chers auditeurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.